passer à notre dernière intervention de l'après-midi avec Marc Maduro, que je ne sais pas exactement comment présenter. Enfin, pour ceux qui sont venus ces dernières années, il vous a déjà infligé plusieurs années de suite un certain nombre d'extraits de films absolument indicibles. Et je crois qu'il reste indicible cette année encore avec une intervention sur le vampire dans le cinéma populaire mondial. Marc, à toi.
Tout d'abord, Alain vous a rendu hommage tout à l'heure en vous prenant en photo. Moi, je voudrais vous rendre hommage en buvant un petit peu à votre santé. C'est très sucré, ça devait être un débit, j'aimerais. Je lance les festivités en positionnant dans le droit quand même. Donc nous allons parler de cinéma. Notre première idée, c'était de faire un petit panorama des adaptations de romans de vampires au cinéma, mais finalement il y a un tel gouffre entre les deux grands romans qui ont débuté le thème, c'est-à-dire d'une part Dracula de Sheridan Le Fanu et le Dracula Bram Stoker dont on a parlé tout à l'heure, et d'autre part tous les romans plus récents depuis Anne Rice jusqu'à la critique dont on vient de parler, à l'exception du Je suis une légende de Richard Matheson dont on a parlé tout à l'heure. On a préféré aussi non pas présenter les grands classiques parce que tout le monde connaît Christopher Lee, Bela Lugosi, Peter Cushing, le chasseur de vampire. Donc avec l'organisateur du festival, M. Rivera, nous allons aussi présenter plein de bizarreries du thème vampirique au cinéma à travers le monde et à travers l'espace, enfin, à travers le temps même aussi. Donc comment le vampire a été adapté, illustré, galvaudé parfois, carrément pourri des fois, dans différents endroits du monde. Par contre, je vais quand même commencer notre intervention par un grand classique. Le premier grand film de vampire, qui date de 1922, c'est le fameux Nosferatu de Murnau, dont on a parlé tout à l'heure. Et je vous ai trouvé un petit extrait maritime. Donc c'est la première adaptation officielle connue du Dracula. Donc ça c'est l'illustration d'une scène dont on a parlé tout à l'heure, c'est Dracula, enfin ici Nosferatu qui rejoint l'Angleterre. Il y a une effrayée matelot en se réveillant sur le teint. Il paraît qu'il y a une légende, le Nosferatu a choisi le bateau d'un armateur qui était en faillite, tout ça parce qu'il avait besoin d'un vaisseau sanguin. Voilà, maintenant, on traverse le monde et on va au Mexique. Le Mexique, ça c'est en 1957, Les Trois du Vampire. Et c'est une adaptation sérieuse parce que les Mexicains n'ont pas toujours été sérieux. Mais là, c'est une adaptation très britannique, si on peut dire, avec un vampire en cap, même en cap et d'épée, comme on va voir. Il va avoir un petit duel à l'épée, enfin plutôt une épée d'une part et une torche d'autre part, ce qui est pas tellement fair-play d'avoir les vampires. Et évidemment, il y a une belle qui est allongée et qui est un peu non seulement la proie du vampire, mais aussi la proie issue du duel. Et cet acteur mexicain, cet Eugenio Méndez, jouait une trilogie à l'époque. Voilà, on est au Mexique, on va passer, ben pas très loin, c'est en Argentine, avec Sangre de Virgenes en 1976, c'est le sang des vierges. Et là, c'est un peu plus sensuel, c'est un peu moins classique, un peu plus sensuel, mais il y a un peu moins de budget aussi. Et un peu sanguinant, comme vous allez le voir. Mais c'est en utilisant encore tous les blocs du vampire avec les belles vampires dépatriées qu'on voit, le cercueil, tout ça. Et là, c'est la scène finale où une jeune femme qui jadis a été transformée en vampire va se venger du vampire qui l'a transformée. Donc des belles canines. Donc je choisis un passage short parce qu'il y a quand même pas mal de passages limités. C'est la réputation. Par contre, c'est assez sanguinaire. Il s'agit de rien. Et là, c'est l'humain qui est amoureux d'elle. Enfin, plutôt que de le décevoir, voilà ce qu'il va faire.
Ah. On n'a pas le son, en fait. Je m'en aperçois maintenant, mais on n'aura pas le son. Il y avait
le son tout à l'heure.
Oui, il y avait le son. Avant. Le film.
Regarde, ton son, il est tout petit, là, tu vois. Voilà, lui, là. Il y avait le son.
On arrête, ça va jusqu'à là. Donc, on est au Mexique, on est passé en Argentine. Maintenant, on va revenir en Europe avec l'épouvante très kitsch italienne des années 60, avec un petit film qui s'appelle La maîtresse du vampire, La volonté de vampiro. Là, c'est un vampire qui est vraiment très moche et qui s'attaque à une troupe de ballerines qui a. Donc la jeune femme, c'est une danseuse qui était avec sa troupe dans le château. Évidemment, le vampire l'a enlevée pour l'enfermer dans son donjon. Et là, il la mort. Pas très loin, on passe en Allemagne, où là on va voir une adaptation un peu plus grand-guignolesque. Ça, c'est Christophe Rivière, en plus, c'est pas grave. Assez moderne qui est de 72, qui illustre le côté très saphique, très homosexuel du roman d'origine. Donc la jeune humaine va tellement être envoûtée qu'elle va être persuadée de se débarrasser de son mari. Et à la fin, c'est le mari qui va gagner. Enfin, je ne les donne pas la fin, mais les deux amantes sont liées. Le C'est très féministe, vous voyez. On est en Espagne, là on va passer à plus exotique encore, toujours en Europe. C'est vrai que c'est vrai. C'est une bizarrerie, c'est une adaptation de Dracula en Turquie. Dracula d'Istanbul, Dracula d'Istanbul. En fait, c'est pas l'adaptation directe du roman de Stoker, c'est l'adaptation d'un roman turc qui lui-même transposait le roman de Stoker en Turquie. Justement, donc maintenant, Londres évidemment est remplacé par Istanbul. L'image était moche, le son était moche, de toute façon le film était moche. Et ça, c'est le Dracula turc. Il n'y a pas un poil sur le caillou, mais il y a des belles canines.
Qu'est-ce que ça devait être les autres soirs?
C'est encore un film très rare qui n'est passé qu'à la télévision turque, donc ça va être une des très rares copies qui existent. Mais ça respecte à peu près la trame originelle du roman Stoker. Donc il y a pas mal de scènes qui se déroulent à Istanbul. Donc Minarka est remplacée par une danseuse orientale. C'est une idée que l'autre.
Et qui ne danse pas à l'orientale.
Exact. Là, de Turquie, on va un peu plus à l'est, on va au Pakistan. C'est un film qui s'appelle Dracula au Pakistan de 2007. En fait, c'est pas le vrai Dracula, c'est un docteur qui est devenu vampire à cause d'une démixture de ses invasions. Et qui lui aussi prend la gueuse. Peut-être aussi beaucoup trop plus en regard. Beaucoup de subtilité pour moi. Et le lendemain matin, sinon j'en profite pour tordre le cou à une idée reçue sur les vampires. Le vampire ne court pas après les jeunes filles, à cause du soin, il préfère les boudins. On va encore plus à l'ouest, on va carrément en Asie plus lointaine. On va voir une adaptation, non pas Dracula, mais des mythes du vampire au Japon. Dans un des films d'une trilogie de Yamamoto. C'est l'histoire originale, mais par contre, ça reprend tous les codes du vampire avec une superbe image. Et là encore, le son, il y a des problèmes. Donc, on joue avec les couleurs, avec les vitraux. Visuellement, c'est des très beaux films. Une très belle trilogie. Et c'est assez européanisé finalement parce que par rapport à d'autres films japonais, par exemple des monstres au caoutchouc, il n'y a pas tellement de détails purement japonais finalement. Même toutes les maisons qu'on voit, c'est des maisons plus européennes et plus occidentales finalement que japonaises. C'est un peu bizarre, mais c'est très joli à voir.
Bah c'est ce qui est exotique pour un japonais.
Finalement, oui, j'ai l'impression. On est au Japon 71. On revient un peu en arrière, mais pas très loin, finalement, géographiquement, hein, c'est très relatif. On va aller aux Philippines avec The Blood Drinkers, des buveurs de sang. Mais aussi, évidemment, un peu de l'eau. Donc, la force précipitée, c'est un film en couleur, sur toutes les salles avec des vampires, souvent en sépia avec des films en couleur. Ouais. Et le plus est en bambou, donc, ce qui s'appelle un bout de bambou. Et là, c'est pas spécial parce que le vampire a tout son corps avec notamment un nain. Voilà le vampire qui est chaud. Évidemment, c'est la fin, c'est tous les villageois qui l'assiègent. C'est encore un scénario très bizarre. Parce que le vampire est amoureux de, évidemment, de sa dulcinée. Et pour sauver sa dulcinée, qui a des problèmes de cœur, ça fait le lien, il va enlever la sœur de celle-ci et lui greffer son cœur. Évidemment, ça. La tentative ne marche pas, là, tous les vampires vont mourir à la fin. Il lui emmène son main. On voit plus le nain, donc c'est un invisible. Voilà, c'était la version philippine du film de vampire, ça c'est joli. On a quasiment commencé tout à l'heure par le Mexique avec une adaptation très sérieuse qui était l'Étoile des vampires. Mais le Mexique, notamment le cinéma populaire mexicain, est très connu pour ses films de catcheurs qui ont souvent touché la science-fiction, le fantastique, l'épouvante. Et justement, on va voir avec ça, c'est un des films les plus fous. C'est Santo et le trésor de Dracula. Dracula. Voilà Dracula. On voit le masque d'argent de Santo sous le filet. Et d'ailleurs, pour une fois, il n'est pas seulement catcheur, il est aussi un grand inventeur qui a inventé une machine à voir dans le temps. Il a pu voir les effets de Dracula dans le temps, c'est comme ça qu'il arrive à la retrouver. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas un combat de cache entre Santo et Dracula. Malheureusement. Là, c'est l'acteur qui se passe un peu au tour. Avec des pointes, des branches un peu chou, c'est des chaussures un peu chou qui se passent. On était au Mexique. Bah là, désolé, il n'y a pas que des horreurs dans le monde entier, il y a des horreurs en France. Dans les années 70-80, il y a eu plusieurs comédies vampiriques qui n'étaient pas toujours très. Très réussi, il y a eu Tendre Dracula et Peter Cushing, il y a eu Dracula Père et Fils avec Christopher Lee Barnes, qui n'était pas inintéressant. Il y a eu Mama Dracula avec Bruce Fletcher. Et surtout, il y a eu le pire de tous, c'est Sherlock contre Dracula, qui est particulièrement raté. Avec un Dracula ridicule. C'est un peu souvent à l'œil. Il n'y a pas de solution non plus, effectivement. On repart en Asie, on commence à accéder aux films les plus fous de ma sélection. On en a dit notamment à Hong Kong, avec un film qui est représentant d'une mode cinématographique des années 70-80, assez bizarre, qu'on appelait les deux en un. C'était un producteur hongkongais qui achetait des films dans différents pays asiatiques, comme Philippines, Thaïlande. Il prenait deux films qui n'avaient strictement rien à voir. Il les montait ensemble, en rajoutant quelques scènes des fois de jonction, et ça faisait des films totalement débiles et totalement incompréhensibles. Et un des plus connus d'entre eux s'appelle Robo Vampire, où on voit un Robocop en papier d'alu qui va être assailli par des vampires ninjas que je suis dans le cercle. C'est assez redoutable. Et vous allez avoir une première vision des vampires asiatiques qui n'ont strictement rien à voir avec les vampires occidentaux. Déjà, ils sont habillés comme des mandarins, que vous allez voir dès qu'ils sont sortis du sable. Parce qu'ils sont assez timides, donc ils sont plus chers. Ils sont très souples, hein, comme notre petit village. C'est vraiment des vampires très souples.
La voix des habitudes.
Ça sera pas un peu les séries pour moi, tout ce qu'il sort. Tiens. Voilà la principale caractéristique du vampire chinois, du vampire asiatique, c'est un vampire sautillant. Il ne se déplace pas en marchant, il sautille. C'est assez spécial. Et là, je vous ai choisi un deuxième extrait. Alors là aussi, c'est un mélange des genres assez bizarre. Je ne sais pas si vous vous rappelez que dans les années 80, il y avait une comédie sud-africaine qui était très connue, c'était Les dieux sont tombés sur la tête. Et il y a encore un autre producteur hongkongais qui a eu l'idée de mélanger le film de vampire chinois et la série de comédie Les dieux sont tombés sur la tête. Ça fait qu'on va trouver un vampire chinois en plein Afrique du Sud, dans le bush, avec les petits bushmen qu'on avait l'habitude de voir. Et ça va donner ce genre de choses. Là, c'est le héros qui a fait un coup sur la tête du film original, qui est mort de chez toi. Vous allez voir, ça respecte les codes du vampire chinois. Le vampire chinois sautille, mais le seul moyen de l'arrêter, c'est pas de lui enfoncer un peu dans le cœur, c'est de lui déposer sur le front un manuscrit avec des idéogrammes magiques. Et notre héros, c'est ce qu'il va réussir maintenant. Fuck. C'est le stop. Mais après, vous pouvez vous en servir comme porte-manteau, c'est pas grave. Le film s'appelle Crazy Safari, donc on ne pas. Toujours dans le mélange des genres, il y a eu un genre qu'on appelle le World Western, c'est-à-dire des westerns normaux, mais mélangés avec du fantastique. Et notamment, il y a souvent eu des westerns, enfin, il y en a eu plusieurs, hein, du western vampirique, notamment en 1959, il y a eu dans l'Église du Vampire, où il y a un pistolero qui non seulement est un tueur, mais c'est un pistolero vampire. Et évidemment, c'est le cercle du pistolet en dessous. Le jeune homme que vous avez vu qui partait du caveau, c'est le héros, et à la fin, il va réussir à avoir le vampire lors d'un duel au pistolet, évidemment, sauf que de la balle qui tira, il y aura une croix qui sera collée dessus. Et lui-même, c'est un pasteur. Et le prénom du pistolet, je crois que c'est Drake. On se demande à quoi ça fait allusion. Adaptations vampiriques assez saugrenues parfois. Donc là, c'était un World Western. Là, on repart en Europe, c'est en Allemagne, c'est le plus récent des films que je vous proposais. On est en 2007. Et là, on tombe dans la mode des films de nazis fantastiques, qui est assez les modes récemment. Souvent, c'est des zombies nazis, souvent, c'est des incursions nazis avec des néo-nazis et autres. Et là, c'est une histoire de vampires nazis. Ça se passe dans un château au fin fond de l'Allemagne. Et Hitler a eu l'idée d'une arme secrète, et l'arme secrète en question, c'est une légion de vampires nazis pour envahir l'Europe et l'Amérique. Sauf que le grand chef vampire nazi compte pour devenir invincible sur une espèce d'amulette. Là, il vient se piquer avec l'amulette, et il est persuadé qu'une fois qu'il s'est piqué avec les deux crocs, qui sont les deux crocs de Dracula qu'il a récupéré, il va pouvoir plonger dans de l'or en fusion. Il sera toujours vivant, si on peut dire. Donc il va vouloir prendre un bain d'or en fusion. Et il essaie de narguer un agent secret américain qui s'était introduit dans le château. C'est un film quand même presque amateur, avec très peu de budget, mais pas tout le monde.
Parce que le banquier ne savait pas, c'est que le... une agence de points de question est aussi un prestidigitateur et lui a piqué les crottes Dracula pour les remplacer par autre chose. Voilà. Fait que le banquier n'est pas du tout invincible. Et son dernier mot sera. Et au bout du temps, ça a carrément brûlé. On revient en Amérique et on mentionne au passage une mode des années 70 qui s'appelle la Blaxploitation, où souvent c'était des films d'action, des films polars, des films policiers, où les héros n'étaient plus des blancs mais des noirs, il y avait la série Shaft par exemple, souvent c'était des polars, mais il y a aussi du cinéma fantastique qui a été adapté, c'est la mode noire si on peut dire. Il y a notamment un Blackenstein et un Frankenstein noir de sinistre adaptation. Il y a eu des films de vaudou qui n'étaient pas terribles. Mais finalement, un des plus intéressants, c'est un diptyque autour d'un vampire noir qui s'appelle Blacula. Il y a eu Blacula le vampire noir et un ou deux ans plus tard, Scream Blacula Scream, c'est-à-dire Hurle Blacula Hurle. Donc il s'appelle Blacula. Il est devenu vampire parce que Dracula en personne s'est vengé de lui parce qu'il avait reçu dans un château, il s'est senti insulté et il a transformé en vampire. Et là, c'est une des scènes du début. C'est Blacula qui se réveille de son de 200 années de réveil. C'est de sommeil. Et il tombe dans un hangar avec plein d'autres caisses. Et juste à côté de lui, il y a deux jeunes homosexuels qui sont en train de se chamailler parce que l'un a été blessé. Évidemment, il a laissé tomber du sang. C'est ce qui a réveillé Dracula. Donc les deux jeunes hommes sexuels vont se faire sucer le sang. Il est un peu poilu, ça. Toujours en Amérique, mais là on quitte la Terre. Il y a aussi la science-fiction qui évidemment s'est emparée du thème et a envoyé quelques vampires dans l'espace. Par exemple, il y a eu Life Force de Hooper, le vampire en espace. Mais c'est en 66, il y a eu Queen of Blood, la reine sanglante. Où il y a l'équipage d'un vaisseau spatial qui recueillait une extraterrestre assez bizarre avec la peau verte. Et évidemment, l'extraterrestre en question avait un secret qu'elle cachait bien et que la blondinette de l'équipage va découvrir tout de suite. Son propre sang est vert, on peut voir. Mais elle aime le rouge. Et bizarrement, elle doit être hémophile parce que la vampiresse, elle va mourir peu après, mais elle va laisser les œufs. Et les œufs vont être gardés et on se devine à la fin du film qui vont éclore et qui vont répandre le vampirisme sur Terre. C'était la reine sanglante. Donc là, on était dans l'espace, mais le vampire a été aussi traité sur la mode du vampire du super-héros. Notamment en bande dessinée, il y a une héroïne avec des formes très rebondies qui s'appelle Vampirella qui a été créée, avec une tenue extrêmement légère. Et ça a été adapté une fois au cinéma avec très peu de budget, donc le résultat est vraiment pas terrible, mais il fallait quand même en voir un extrait. Là, c'est l'arrivée sur Terre de Dracula, de Vampirella. Il faut savoir que c'est aussi une extraterrestre qui arrive d'une planète peuplée par les vampires, qui s'appelle Draculone. Et pour se venger d'un vampire en renégat, elle arrive sur Terre pour essayer de le retrouver. C'est un peu une espèce de Wonder Woman vampire. Là, on passe au film peut-être le plus étrange jamais tourné sur les vampires. Et je crois que c'est le seul film qui a été tourné en langage sourd-muet. Et qui est extrêmement coté auprès des sourds, des sourds-muets, paraît-il, parce que c'est le seul qui leur a été consacré. Mais le résultat est extrêmement bizarre. Parce que vous imaginez les scènes de suspense avec, au lieu des paroles, des langages des sourds. C'est extrêmement bizarre.
For the last time, get out of your chair, go out and find the killer.
Et le héros, en fait, c'est un jeune étudiant qui s'aperçoit qu'il a des crises de démence qui font devenir sanguinaire. Il découvre qu'il est vampire et pire encore, il découvre que c'est le fils de Dracula. Donc il essaie de traquer Dracula et c'est là qu'il le rencontre dans une grotte. Donc voilà, c'est du dialogue. On va prendre le son par-dessus, mais en fait, tout se passe par les dialogues des gens. Donc pour tout le suspense, c'est assez Vous avez tous son cas, il s'appelle Défu. Vous avez
coupé la fin de la phrase.
Là, on a vu ce qu'on appelle des films live avec les acteurs, mais il y a aussi d'autres adaptations sous d'autres supports. Donc, il y a un film très amusant, un film d'animation image par image qui date de 69. Il s'appelle Mad Monster Party. On retrouve tous les grands monstres de la Terre Universal, le loup-garou, le vampire, l'homme invisible. Et là, c'est Dracula en
Malmé.
Il faut un film américain. C'est mignon comme tout. Donc c'est un hommage à l'épouvante de l'entre-deux-guerres américaine, mais c'est très très bien fait. Dans un tout autre style, hein, maintenant un dessin animé, mais d'origine cubaine. Le projet en anglais. En fait, c'est l'histoire de l'invention d'une potion qui permet aux vampires d'être invincibles au soleil, enfin de ne pas être décomposés par le soleil. Donc là, on voit quelques tests avec des chiens vampires. Donc les premières expériences ne marchent pas. Mais finalement, le dernier va marcher et le chien résiste au soleil. Donc tous les vampires du monde entier, évidemment, vont être au courant. Et c'est le bon Dracula qui va essayer. Le premier vampire humain, si on peut dire, à le faire, mais malheureusement, visiblement, sur les vampires humains, ça ne marche pas. Et drame pour l'inventeur. C'est très mignon, c'est Cuba. On ne connaît pas tellement le film de Cuba, mais en tout cas, c'est une belle réussite. Et ça date de 85. On va encore plus loin dans l'exotisme et le bizarre. On part en Finlande. La Finlande a fait très peu de films fantastiques, mais quand ils en ont fait, c'était assez bizarre. Là, c'est l'histoire d'une femme, une jeune mariée, qui va voir un chaman, et le chaman la transforme en reine-garou. J'ai bien dit reine-garou, et en plus, un reine-garou vampire. Okay, donc, dans le couple, finalement, c'est la femme qui porte les cornes. Et voilà, c'est les dernières images que je propose. Ça, c'est le mari. Il ne sait pas que le reine en question, c'est sa femme. Et il le découvre. Hein. Ce sont encore une histoire qui finit au pieu. Donc là, on a vu des vampires qui étaient humains la plupart du temps. On va penser au meilleur ami de l'homme, le chien, parce que Dracula aussi avait un animal domestique. Le chien se montre en kilo. Zoltan, vous allez voir, c'est une magnifique bête extrêmement affectueuse. Et dans ce début du film, il y a un jeune soldat russe qui découvre le cercueil et il s'empresse d'enlever le queue. On ne sait pas pourquoi. C'est un peu le port des chances, évidemment. Parce que parmi toutes les règles du film de vampire, normalement, on devrait écrire ne jamais enlever le queue dans les cercueils. Et c'est ce que font la plupart du temps tous les idiots dans les débuts du film. Ça, on est dans un film américain. Il a très mal à jouer. On va voir un gros plan de vestiaire.
Yes.
Il n'y a pas d'autre. Et je vais finir mon petit panorama des bizarreries à travers le monde, à travers le temps. Là, c'est un autre meilleur ami de l'homme, mais c'est le meilleur ami de l'homme, non seulement pas à quatre pattes, mais à quatre roues. C'est un film tchèque qui date de 81, ça s'appelle Upír Zefiratov. Et devinez quel est le vampire, donc. Parce que dans l'histoire, il y a une voiture qui vient vers lui, on se demande comment elle peut gagner tout le rallye. Et là, le héros essaie de mener sa petite enquête. Parce qu'il trouve vraiment cette voiture très 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 bizarre. Et là, il y a un morceau du capot qui bouge tout seul. Donc je vais aller chercher ça, j'ai une bonne idée. Ouais. L'inconvénient de cette voiture, c'est qu'elle ne dépasse jamais le sang. Oh. Au cinéma à travers le monde et parmi avec toutes ces